Il est l'heure de retrouver l'émission Écriture dessinée en compagnie de Bruno Canard. Et aujourd'hui, il n'est pas seul en studio. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors, on va parler de Pareil Dolly. Et Pareil Dolly Comics est une œuvre collective initiée par Matt Conture et Jenko pendant une séance de création d'affiches de concert. L'appareil de lit est le processus permettant de reconnaître une forme figurative dans un motif abstrait. Alors nous l'avons tous fait en regardant les nuages. L'appareil de lit Comics Band est l'ensemble des dessinateurs auteurs invités à réaliser des pages à partir d'une feuille fournie bien sûr par Matt, avec des tâches aléatoires créées avec du papier chiffonné et de l'encre. Résultat, un livre de 276 pages, coédité par une petite dizaine d'éditeurs et réalisé par plus d'une quarantaine d'auteurs. En studio, Rico, auteur, dessinateur, peintre et maquettiste pour l'occasion. Occasion, on en reparlera, c'est une grosse occasion. Et il y aura Matt Conture qui sera avec nous au téléphone, si tout va bien. Il y a encore un peu d'incertitude. Et nous pourrons, avec eux, suivre les Pareil Dolly graphiques de ce Pareil Dolly Comics Band. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour Rico.
Bonjour Bruno.
Alors, oui, il faut, c'est un peu l'impératif, parler dans le micro. Et donc, alors, il y a eu le manga table où il y avait, à partir de toutes les fanzines de la table, une compilation où vous avez donc œuvré. Et parce que se finaliser un tel projet, ça demande un boulot de dingue, non ?
Un boulot de dingue. Surtout qu'en plus, on ne peut pas dire qu'on soit les rois de l'organisation. La pratique aussi de faire des sessions comme ça, un peu comme si on était un groupe de musique qui improvise, quoi. Enfin, soit on a fait le parallèle, notamment au moment du manga table, de dire qu'on faisait des jam sessions de dessin, quoi. Pas des cadavres exquis, quoi, parce que on arrive à faire quand même de la narration, pas toujours, mais on arrive quand même à faire des choses narratives en improvisation, comme ça, en se passant les pages avec des gens qui commencent des débuts d'histoire et puis qui se refile des bouts de dessin comme ça. On arrive à reconstruire vraiment des narrations, quoi, par moment. Ça marche pas à tous les coups, hein. Et ça marche pas avec tout le monde. Mais c'est vrai que depuis qu'on fait des fanzines avec Matt et notre petite bande sur Montpellier, on a pris cette habitude et ça fonctionne plutôt bien, quoi. Et puis, parce que Manga Table, tu parles de ce qu'on faisait avec la table, mais en fait, ça a débordé largement notre cercle, puisqu'on a fait ça, on faisait ce qu'on appelait des apéros comics. Toujours une table, bien sûr, des victuailles, de l'encre et du papier. Et ça, on a fait ça avec des Suisses, avec des gens de Clermont-Ferrand. Voilà. Chaque fois que ça a marché, parce que ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, on a pas mal coupé là-dedans, on a essayé de reproduire cette histoire-là, quoi. En partant du constat que le dessin, c'est un peu fastidieux, c'est une activité solitaire, quoi. Et que c'était un peu une façon de sortir de cette solitude de la table à dessin, quoi. Et voilà, c'est une pratique qui est faite souvent quand on se rencontre. On fait des soirées ensemble, souvent ça finit un peu comme ça, quoi. Un peu comme si on discutait, mais tout en dessinant et en mettant des bulles autour des dessins et des cases. Alors, c'est pour comment ça qu'on arrive à faire la narration, parce que souvent ça prend des thèmes de discussion qu'on a finalement. Voilà, comme s'il y a une petite fête, on rajoutait le dessin en plus. Et...
Il faudra peut-être y penser plus régulièrement. Alors en fait, je voulais présenter aussi, à l'occasion de cette émission sur le voyage en Pareidolie, le livre collectif publié par Six Pieds Sous Terre qui s'appelle T'inquiète, où il y a 5 auteurs qui, pendant le confinement, se sont retrouvés dans un gîte. Ils étaient allés faire un vernissage d'une exposition, celle de Fab Caro et Zaï 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 Zaï. Et donc, dans les 5, c'était donc Beignet, Bouzard, Fabrice Herr, Fab Caro et Gilles Rochier. Et donc, ils ont... Alors, c'était pendant le confinement, donc ça commençait à plomber sévère. Et ils ont créé... Une histoire, mais c'est vraiment un cadavre exquis. Alors, il faut imaginer, en plein confinement, être dans de longues soirées d'hiver avec 5 auteurs, ça devait être quand même une sorte de bouffée d'oxygène absolument incroyable. Le récit est absurde, improbable. Le voici. Ils sont 5 à recevoir le même courrier, 5 liés par le passé. Tous membres d'un orchestre philharmonique rescapés d'un crash d'avion. Il y a 4 percussionnistes, la grosse caisse, le congas, la guimbarde, le gong, et puis le cinquième, on ne sait pas. Et puis ils sont donc invités à se réunir pour une représentation spéciale, et on imagine donc un nouveau concert. Alors, le passé de ces 5 personnes est plutôt sombre à cause de ce crash d'avion. Et donc, la phrase dans ces cas comme ça, c'est « t'inquiète ». Et c'est vraiment un cadavre exquis, chacun avec son style, chacun avec sa représentation de soi-même. Ils sont tous en scène. L'humour de Beignet et de Bouzard est plutôt irrévérencieux. Celui de Fabrice Herr et de Fab Caro, absurde et sociétal. Gilles Rochier, c'est justement celui qui n'était pas cité. C'est vraiment l'humour revanchard, sombre. Et c'est un contrepoint parfait avec les 4 autres. Ça s'emballe joyeusement. Il y a de beaux éclats de rire. Et c'est toujours difficile de faire rire en bande dessinée. C'est une belle réussite. Donc, tous les auteurs sont passés... à 6 pieds sous terre. Certains étaient là depuis leur premier album, d'autres sont arrivés en cours. Et c'est tous aujourd'hui des auteurs importants de l'édition bande dessinée d'une manière générale. Donc T'inquiète de Beignet, Bouzard, Fabrice Herr, Fab Caro et Gilles Rochier, publié par les éditions 6 pieds sous terre, et les 160 pages de ce livre sont au prix de 18 euros. Alors, on va bien sûr détailler, on va se passer un petit morceau de musique pour finir d'appeler Matt et être plus rassuré quant à sa parole. Et on va donc écouter un morceau d'un des disques du groupe Courge, créé par Matt, dont Matt est une des personnes essentielles. Courge. We'll be right back. CD mixé par Rico. Alors, en attendant d'entendre Matt, comment s'est passé le travail sur ce voyage en pareille idolie?
Pour ce livre-là, voilà, particulièrement, pour quoi. Mais bon, comme tu l'as dit là, en introduction, ça part vraiment, ben, une fois de plus, d'être en train de faire des choses. Ils étaient en train de faire des affiches de films. Et ça arrivait comme ça, quoi. Et après, Matt a commencé à s'obséder avec l'appareil Dolly, quoi. Il est rentré dans une espèce de spirale. Et comme à son habitude, il a commencé c'est un graphomane, Matt, quoi. Donc, il a commencé à remplir des tonnes de pages et à inviter du monde. Et puis, lui est venue cette idée de faire un livre à partir de ce procédé de tâches. Et il a commencé à distribuer les pages de tâches. En fait, dans le livre, il y a 10 pages de tâches qui ont été les mêmes, qui ont été distribuées à tous les participants. Et quand on voit les planches à l'arrivée, ça ne donne pas toujours cette impression, effectivement, quoi. Et alors, ça, c'est un truc qui a démarré il y a plus de 5 ans déjà. On a été... C'était très compliqué à imprimer ce livre, en fait, quoi. Dans un premier temps, pour des raisons financières. Ensuite, pour des raisons d'organisation du livre, parce que ça a été fait vraiment dans l'anarchie. Non, je ne devrais pas dire anarchie. Dans le bordel le plus total.
La nuance est grande.
Oui, bien sûr. Et vraiment, ça a été compliqué de trouver un ordre à toutes ces pages, d'essayer de remettre un peu... une espèce de sens, parce qu'il y en a un quand même, oui. Au fond, c'est ça le plus dur, quoi, vraiment le plus dur, quoi. Ça a été vraiment très très compliqué, et en plus, comme on a mis beaucoup de temps, ben, plus le temps passait, plus de nouvelles pages nous arrivaient sans arrêt, quoi. C'était un peu comme un truc sans fond, quoi. À un moment donné, il a fallu qu'on dise le stop pour les dessins, et encore un mois avant que le livre sorte, on a encore rajouté des choses et remis en cause des ordres et tout ça dans la pagination, quoi. Moi, je n'ai pas participé concrètement au dessin, quoi. Mais ben, voilà, comme on collabore avec Matt. En fait, on a cette petite maison d'édition avec Matt qui s'appelle La Table Édition, quoi. Et du coup, comme je voyais qu'il était en panique, j'ai dit, bon, allez, je veux bien m'attaquer à la maquette, quoi, à essayer de remettre de l'ordre dans tout ça, quoi.
Alors, concrètement, qu'est-ce que ça représente de s'attaquer à la maquette? Les pages arrivent? Et qu'est-ce
qui se passe?
Moi,
je les vois se faire, on se voit assez souvent, donc je vois les pages se faire, Matt me parle de ce projet et tout ça, quoi. Et il faut tout lire, tout scanner, essayer de trouver, je sais pas, ça serait comme de faire du montage cinéma, presque. Moi, je sais que le parti pris que je prends, comme ça, tant que j'arrive à trouver un espèce de sens dans la bulle et dans le texte et tout ça, j'essaye de m'accrocher à ça pour faire la transition de page à d'autres. Et puis des fois, c'est comme un cinéma, quoi. Des fois, on est obligé de faire des ruptures dans le montage et tout ça, quoi. Et des fois, on n'a pas les pages qui nous permettent de faire les transitions. Il faut bien le faire avec ce qu'on a, quoi. Et des fois, c'est purement une transition graphique. Parce qu'il y a quelque chose graphiquement qui fait la jonction entre deux pages, entre trois pages qui se suivent, quoi. Et des fois, c'est purement ça, quoi. Alors, c'est pour ça, et ça pourrait être... moi, j'ai maqueté deux fois ce livre, en fait, quoi. Et quand je regarde la première maquette qui n'a jamais été achevée, elle ne ressemble pas du tout au livre qui a été imprimé à la sortie. L'ordre des pages n'est pas le même. Donc, il y a des histoires d'humeur du moment.
C'est juste une histoire d'ordre de page, ou est-ce qu'il y a une différence de travail, de précision dans le scan des pages? Est-ce qu'il y a des retouches qui sont faites?
Non.
Est-ce que tout est lisible?
Zéro retouche à l'ordinateur, non. Le travail d'ordinateur infographique, ça consiste essentiellement à nettoyer les pages, rendre les textes lisibles. Bien fastidieux aussi, cette affaire-là, quoi, très chronophage. Mais c'est surtout ça, quoi. Faut voir l'état des planches, quoi, qui ont navigué pendant des mois et des mois au fond de sac et tout. C'est beaucoup un peu chiffonné, tout ça. Il y a un gros travail de... Parce que de restauration, je dirais quoi, carrément, quoi. Rendre les pages, les bulles lisibles, c'est pas toujours évident avec l'utilisation du Tippex. Les scans, ils sont simples dès qu'on utilise du Tippex, quoi. Et c'est quelque chose qu'on utilise énormément. Au lieu de gommer, on passe du Tippex. On fait nos blancs en Tippex. Parce que ça couvre bien, quoi. Mais ça marche très mal au scan. C'est très granuleux, ça devient gris. Des fois, c'est intéressant de le garder, ceci dit. Donc, il y a ces choix aussi qui sont faits. Et c'est vrai que Matt, à ce niveau-là, il me laisse libre. Enfin, on travaille en confiance, quoi. On a l'habitude de faire les choses ensemble, comme ça, de cet ordre-là, quoi.
On peut réessayer Matt, Fabien, ou c'est possible ou pas? Allez, nouvelle tentative. Donc alors, parce que manifestement, ça a quand même duré plusieurs années, cette histoire.
Oui.
À part la première partie de maquette qui a été faite.
Quand j'ai attaqué la première partie de maquette, donc il y a, je me rappelle même plus, peut-être 4 ans, 5 ans. Je crois qu'il y a des dessins qui datent de 2018. Non, c'est ça,
oui,
4
c'est
ou 5
ça.
Ans. Quand j'ai attaqué la première partie de maquette, bon, nous, avec Matt, on ne demande pas de subvention. Donc, à ce moment-là, on n'a pas vraiment les ronds pour imprimer un bouquin de 280 pages. On sait qu'il va être gros, de toute façon, vu la masse de documents qu'on a, on sait qu'il va être gros, quoi. Bon, je rappelle, le manga page, il y avait 500 pages, quoi. Le manga table, il y avait 500 pages. Ouais, c'est un peu un délire qu'on a, puis bien rempli, pas une feuille blanche, pas d'espace. C'est une maniaquerie, quoi. Mais on n'a pas les finances à ce moment-là, quoi. Et du coup, on s'est dit, comment on va faire une fois de plus, quoi. Alors germe aussi cette idée de la coédition, quoi, parce que on se dit, on va faire comme les labels, de musique, on va faire une coédition, quoi. Oui, dans toute la musique un peu underground, on pratique énormément cette coédition. Et on a dit, pourquoi pas essayer de mettre quelque chose en place comme ça. Alors, on a eu des retours positifs, mais ça ne se concrétisait pas encore vraiment financièrement. C'est Menu le premier qui nous a envoyé de l'argent pour imprimer ce livre-là. Quoi, voilà. C'est Menu lui qui a commencé à nous faire rêver... qu'il allait vraiment exister ce livre-là, pas que dans nos têtes, quoi.
Alors, Menu, donc, elle est un des co-créateurs, un des auteurs fondateurs de l'association. Il a quitté l'association et a créé donc les éditions L'Apocalypse et qui œuvre, qui continue d'œuvrer. Donc ça, c'est une info intéressante. Et parce que quand on voit la liste des co-éditeurs, c'est très impressionnant. Parce que il y a Super Loto Édition, il y a la cinquième couche. Comment ça se fait, vous ayez réussi? C'est Matt et...
Je pense, Matt, bien sûr, forcément, c'est le lien d'amitié avec Menu, bien sûr. C'est une vieille histoire déjà. L'association, on a été très surpris, carrément. C'était une proposition que Matt a lancée, c'est son histoire. Et on a vraiment été surpris, quoi. Même à un moment donné, l'association voulait prendre même la fabrication du livre et tout ça. Ça ne s'est pas fait parce qu'on trouvait qu'ils vendaient le livre trop cher à la sortie, quoi. Et que nous, on aime faire des livres pas chers, quoi, aussi. Parce qu'on est quand même pour... Je sais pas vu d'où on vient avec Matt et d'autres collègues. On est quand même pour... Pour nous, la BD, c'est un art populaire, quoi. Et donc, quand les livres deviennent trop chers, ça ne devient plus un art populaire, quoi, tout bêtement, quoi.
Les bibliothèques peuvent aider, ceci dit.
Les bibliothèques peuvent aider. Mais il faut encore... faut-il aller s'y inscrire, quoi. Ouais.
Parce que, alors, pour information, Matt Conture est aussi un des cofondateurs avec Menu de l'association. Mmh. Il est toujours, par contre, membre.
Oui, il est toujours membre. Oui. Après, je ne sais pas où en est l'association avec leurs multiples allers-retours. Là,
alors, j'ai cité tout à l'heure la cinquième couche, mais il y a par exemple Super Loto Édition, il y a Le Dernier Cri.
Mais après, voilà, pour moi, concrètement, je vais parler finance, quoi, mais par rapport à... par rapport à voilà, il y a plein de petits logos, là, comme ça, des amis qu'on connaît, soit musiciens et tout, qui font aussi du fanzine, quoi, qui nous ont aidés à des hauteurs genre de 100 euros, de 120 euros, fait par rapport à... prix d'un livre, c'est pas grand chose. C'est quand même les trois principaux, c'est quand même la cinquième couche, l'association et menu, quoi. Même le dernier cri est intervenu à très peu de choses. Bon, en plus, on a bénéficié, du coup, on est très bordélique avec Matt dans l'organisation, donc Super Loto, Camille de Super Loto nous a fait tout plein de beaux tableaux, tout ça, en nous expliquant les coûts, les machins, les reviens. Chose que nous, on ne sait pas faire, quoi. Il nous a vraiment super aidé à ce niveau-là. C'est lui qui a, quelque part, par rapport à notre rêve, coédition, tout ça, c'est un peu lui qui a concrétisé, à partir du moment où il est venu, c'est lui qui a rendu la chose beaucoup plus concrète, quoi. Un peu comme si nous, on planait un peu dans des trucs adolescents encore, je venais des guillemets à l'affaire. Et tu vois, un peu, quand ah oui, on va faire ci, on va faire ça, mais sans forcément avoir tous les tenants, on connaît ce métier, on connaît tout ça, mais sans avoir forcément toutes les clés en main, finalement, concrètement, pour arriver à nos fins, quoi. Et donc, c'est vrai que Super Loto Édition, ils ont été super précieux sur le concours. Vraiment, vraiment. Je dirais que c'est lui qui a concrétisé, quelque part, fait la faisabilité du livre, quoi, et tout ça, qui a pris les contacts, vraiment, qui a officialisé les choses, quoi. C'est pour ça que je parle de rêve d'adolescent comme ça. Mais voilà, il a rendu tout ce qu'on se disait vraiment très concret, quoi.
Elle date de quand, cette faisabilité ?
Eh bien, ça allait assez vite, puisqu'on a fini le livre. On a mis la dernière main en octobre, tu vois, avec Matt. On s'est enfermé pendant 5 jours, là, chez moi. Et voilà, on a tout revisité, tout regardé, tout repris, tout relu, tout bien nettoyé. Et donc à partir de là, voilà, c'était parti, quoi. Les sous étaient réunis. On a imprimé 2 fois plus d'exemplaires que ce qu'on avait prévu, puisqu'avec la coédition, finalement, on a eu plus d'argent que ce qu'on pensait. C'est la première fois que je mets un code barre sur le livre. Ce qui m'a fait tout drôle. Et c'est la première fois qu'on rentre dans le réseau des distributeurs. Quand on a un distributeur, ben grâce à cette coédition et tout ça, bien sûr, ça ne vient pas de nous. Je ne sais pas si ça se dit, mais pour la petite histoire, notre maison d'édition avec Matt, qu'on considère comme une vraie maison d'édition, n'a aucune structure réelle. C'est juste un truc entre copains, quoi. Bon, on n'a pas de numéro, machin, on est inscrit nulle part. Mais ça existe, quoi. On fait des livres.
Et Rico, c'est la première fois que vous êtes à Angoulême sur le stand d'un très grand nombre d'éditeurs, parce qu'ils sont tous co-éditeurs.
Oui, c'était incroyable. Je voyais les photos arriver sur Facebook dans les grands chapiteaux que j'ai honnis pendant des années. C'était incroyable, effectivement.
On va écouter Ibon Slim et son Rockabilly. Et puis peut-être on arrivera à voir Matt. On y croit encore.
Moi non.
Rico non. Bon, ok.
Plan's gonna be a mess. Do what it takes. Gonna blow you away. You're making no mistake. Got it all worked out. How can I go wrong? The world's gonna remember me when I'm gone. Oh, it's all to me. I gotta keep it moving. Oh, I just can't wait. I'm already up, but I'm on my way. I'm gonna be somebody one of these days. Soon you don't know just who I am. 'Cause I'm a man. I'm a man, I'm a man.
Alors, vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Rico est en studio à l'occasion de la parution de Voyage en Paris-Idoli, signé par le Paris-Idoli Comics Band. Et donc, on attend Matt Conture, mais peut-être ne viendra-t-il pas. Fabien essaye, mais ça ne répond pas. Donc, Rico, il y a... alors, on est dans l'underground, hein, et Matt, depuis plus de 40 ans, charge ses pages, et c'est ce qui fait d'ailleurs son écriture si particulière, ou c'est aussi autobiographique, donc si vous ne connaissez pas son œuvre, elle est vraiment à découvrir. Mais là, on a vraiment l'impression d'une cohérence d'ensemble. Par exemple, dans les premières pages, il y a ces ours, certains animaux qui réapparaissent. Et puis, une histoire va interpeller, va questionner cette représentation. Et puis, on va partir sur d'autres choses. Il y a vraiment une unité recherchée. Une cohérence, plus ouais. qu'une unité.
Oui, une cohérence, c'est sûr. Déjà, il y a une unité graphique. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'un livre collectif et tout ça, quoi. Et c'est vrai qu'avec Matt, on a cherché s'il y avait des pratiques comme ça. Et la différence qu'on verrait par rapport à notre pratique, c'est que nous n'hésitons pas à nous dessiner les uns sur les autres. Et un côté qui fait aussi justement cette cohérence graphique, c'est que souvent, Matt re-ancre tous les dessins de tout le monde. Sa graphomanie, quoi. Et du coup, le fait que Matt re-ancre derrière, déjà graphiquement, ça donne. Ça relie un peu tout, quoi. Juste avec le trait.
Il y avait vraiment une grosse différence au départ.
Ça peut l'être. Matt, il reprend incessamment ses pages. Il n'arrête pas de repasser dessus. Et il fait pareil avec les pages collectives, quoi. En plus, bon, il y a quand même une grande partie. Des fois, les gens ont fourni des pages de dessin et c'est Matt qui fait le texte autour, quoi, par exemple. Quoi. Donc, c'est pour ça que je sais pas, à un moment donné, on lui a même suggéré d'appeler ça, de titrer le livre Matt Conture and the Paraidolic Band, quoi, carrément. D'abord, parce que c'est son idée, c'est lui qui a fourni le plus de matériel graphique et tout ça, c'est lui qui a écrit la plupart des textes quand même à l'intérieur, parce que des fois c'est lui qui écrit les textes, les bulles d'autres de pages faites par d'autres dessinateurs, quoi, et tout. Non, la cohérence elle s'opère là, quoi. Puis je vais faire un peu le malin, puis moi j'en mets un peu dans la maquette et le choix de la suite des pages, quoi, aussi, quoi. Pas forcément si évident, quoi.
Sur 276 quoi. Pages, c'est un chantier. Comment ça se passait ? Il y avait la corde à linge dans le salon et puis les pages qui se succédaient.
Non,
comment as-tu travaillé ?
Je lis tout, je fais des petits essais. Je simule ça vraiment, comme je fais de l'audiovisuel à côté, un peu comme du montage, comme je te disais tout à l'heure, un peu comme un montage de film, un petit peu, quoi. Et puis, comme c'est pas écrit à l'avance, c'est que c'est de l'improvisation, quoi. Je sais pas, un peu comme ces groupes de musique, si je pourrais citer Cannes, par exemple, qui vont improviser énormément et qui finalement, dans ce tas d'impros, vont sortir des morceaux, quoi, vont sélectionner les bons moments de leurs impros. Et du coup, il y a un peu cet aspect-là, un peu comme ça, quoi. Je crois que cette analogie qu'on a fait avec Matt du groupe de musique et de jam session, quoi, elle est vraiment juste, quoi, à transposer dans le dessin, quoi, justement.
Rico, le chutier est important ?
Oui.
Vous avez écarté beaucoup ?
Non, pas tellement. Je pense qu'il y a beaucoup d'oubli. Là-dessus, moi, je pense que je suis un peu plus sévère que Matt. J'ai un peu écarté des trucs. Ouais. Mais comment dire, pas méchamment, c'est pour garder cette cohérence, justement. On ouvre les portes largement, quoi. Ça que participent et des gens qui ont l'habitude de faire de la bande dessinée, et puis des gens complètement débutants, quoi. Donc, du coup, quand même, moi, j'ai un peu... Alors, on a un peu un accord tacite comme ça avec Matt, quoi. je vais lui dire quand même là. Mais Matt, il va me dire, oui, mais il nous a aidé pour faire ci, ou elle nous a aidé pour faire ça. J'ai fait, ouais, mais quand on met les pages côte à côte, où on le range, ça va pas dans le montage, quoi. Je sais pas, c'est un peu de cet ordre-là. D'ailleurs, on a prévu de faire un petit supplément, plus sous forme fanzine, pour c'est un cours pour mettre les pages qu'on a oubliées, parce qu'on a égaré des pages qu'on a retrouvées après. Et puis, voilà, pour peut-être mettre ça aussi qu'on a décidé. Mais il n'y en a pas tant que ça, Il y a quelques-uns qu'on n'aurait pas mis. Ou c'est arrivé qu'un auteur nous file, je ne sais pas, 20 pages et on n'en a mis que 5 dedans pour que tout le monde y soit, quoi, aussi. Enfin, il y a cet aspect-là, quoi, aussi. Je pense que le livre aurait pu prendre 50 pages de plus, ouais, assez facilement, quoi. Donc on prévoit de faire un petit fanzine supplémentaire.
Alors Rico, il y avait donc la semaine dernière une séance de dédicace où Matt était présent, toi aussi, il y avait Sandra Virine, donc une autre participante de ce voyage en Paris Idoli. Et on avait l'original de la couverture qui était présent. C'est pas la même taille. Il est quand même nettement plus grand. Et donc là, on sent un fourmillement, mais alors très intense. Le choix du format.
Le choix du format est économique aussi, quoi. C'est toujours la même histoire. On avait une première version en grand format, en fait. Puisque la plupart des planches sont en A3, voire des fois plus grand. Bah, tu vois, la couverture, c'est carrément comme une nappe de table. Ça doit faire 2 mètres par 2, un truc comme ça. Qu'avec du petit dessin, quoi. Je craignais d'ailleurs, et puis finalement, je suis assez surpris de comment ça sort finalement. Ça provoque l'appareil Dolly, justement, quoi, ce fourmillement. Et ceci dit, ça vaut le coup de voir la couverture, l'original de la couverture. On le présentera dans des expos. À Gage prochainement.
Ça sera l'annonce finale.
Ouais, j'amorce. Non, mais ou je bien, me crois déjà bien. La fin, je sais pas.
Alors, donc, économiquement, on tire en voilà. Ces formats roman graphique.
Pareil.
Si c'est quoi? C'est du 17-22, quelque chose
c'est
comme ça?
C'est carrément le A5 des fins.
C'est le A5.
Vient de là. Ah, oui. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Quoi. Et ce format nous sort par les yeux, à force, on en a souvent marre. Mais en fait, on se rend compte qu'accidentellement, on y revient toujours. Et pour l'histoire du format, je sais que moi, en premier temps, j'ai sorti, pour voir comment ça sortait les dessins, un double, un format double, beaucoup plus grand. Ouais, beaucoup plus cher à sortir. Et après, pour des raisons économiques, avec mes machines et tout, une fois que les planches étaient nettoyées et tout, j'ai sorti un format réduit, juste pour voir si c'était lisible, les bulles et tout ça. Quoi. Et là, Matt, quand il a vu le format réduit, il a dit « Ah oui, il faut le faire en réduit. » Mais le truc était économique, quoi, avant toute chose. Quoi. Avec cette volonté, toujours pareil, ben, en gros, si j'en ai les arcanes un peu de l'argent et d'imprimer des livres, ben, si on l'avait fait en grand format, ce livre, on aurait été obligé de le vendre entre 30 et 35 euros. Et voilà, nous, ça nous paraît vraiment trop cher. Vraiment trop cher par rapport à ce truc d'art populaire, quoi, je sais pas, de choses comme ça, quoi. On est peut-être couillant de s'accrocher à des choses comme ça, je ne sais rien, mais en tout cas c'est un parti pris qu'on a, quoi.
Ah bah, il y a des groupes comme Fugazi qui avaient des places de concert absolument avec un prix plafond, les disques étaient pareils, c'était vendu bien moins cher que les autres. C'est un bon parti pris.
Dans notre histoire, on a été marqué par tout ça avec Matt, quoi.
Alors, une idée très forte, c'est que les pages s'ouvrent à qui veut, à des gens qu'on ne connaît pas, donc, dont on ne connaît pas le nom dans d'autres œuvres, comme si vous affirmiez tout le monde auteur de bande dessinée. C'est qui est un peu l'idée des punks des années de la fin des années 70, où tout le monde fait de la musique, tout le monde peut produire. Ouais, ouais. Bon, Ça paraît plus compliqué quand même.
Non, mais ben, c'est ça. On vient de là, Trois accords, tu fais une chanson, point barre. Quoi. C'est un problème d'expression, quoi. On a ce moyen d'expression, quoi. Et finalement, si on a des trucs à dire, on n'a pas besoin d'avoir fait toutes les académies. Et... Enfin, je sais pas.
Il y a un vivier très important autour de Matt, de Montpellier, de la table, de la Paris-Idoli, du Paris-Idoli Comic Board.
Quand même. Et puis, il y a quand même... le dessin, quand même, c'est quelque chose, quoi, c'est pas qu'une pratique d'enfant, quoi. Après, c'est toujours pareil quand tu es dans un espèce de milieu comme ça. Ben oui, tu croises toujours des dessinateurs. Tu pourrais croire que tout le monde dessine. Bon, je me rends bien compte que c'est pas la réalité, effectivement. Ça, c'est un peu compliqué, finalement, à discerner, quoi. Parce que par pratique, effectivement, j'ai tendance à rencontrer plus de dessinateurs que des programmateurs informatiques, quoi. Ouais.
C'est souhaitable.
Ou que des DRH, je sais pas.
Encore plus souhaitable. Donc, l'underground, il y a eu le film de Francis Valero qui montrait justement cette très grande vivacité de l'underground et l'importance du réseau aussi. Donc c'est un livre qui va circuler, vous allez être invité dans toutes les manifestations.
Oui, on va aller faire les petits salons et tout ça, il y en a énormément, c'est quand même incroyable. Je sais pas, ça se multiplie. Bah, pour moi, c'est la référence, c'est quand même la fanzinothèque de Poitiers, quoi. Ça fait presque 30 ans, je crois, Bruno, maintenant, oui. Fanzinothèque. Un nombre de titres incroyables qui viennent du monde entier. Ça ne cesse de s'amplifier, quoi. La fanzinothèque, il y a des livres du Brésil, il y a des livres du monde entier. Des livres des fanzines. Enfin, oui, c'est des livres. Des livres du monde entier, enfin, c'est quand même incroyable. On n'a rien à gagner dans cette histoire, quoi. Je veux dire, parce que ça, c'est un autre truc important. Quand on voit autour, c'est toujours l'argent qui motive un peu plein de choses et tout, quoi. Mais vous comprenez bien qu'on ne va pas gagner notre vie avec 500 exemplaires de fanzine, ou même avec un livre édité à 1500 exemplaires, avec 40 dessinateurs. Ça, par exemple, c'était un autre problème. Il fallait faire des contrats. Si on passait par l'association pour faire ce livre, il aurait fallu faire un contrat pour chaque dessinateur qui avait participé là, avec un petit peu de droit d'auteur qui aurait dû être du genre à 10 ou 20 balles à l'arrivée, quoi, puisque c'était le gâteau était à partager entre 40 ou 50. Ça n'a pas de sens, quoi. Et donc voilà, quoi. On sait qu'on ne va pas gagner notre vie avec ça. C'est quand même... Ça fait une différence avec le monde dans lequel je vis, quoi, d'une manière générale, quoi, c'est sûr. Quoi.
Et par rapport à votre œuvre, comment ça se passe bon, il y a la maquette, on en a parlé, il y a ce travail de fond essentiel. Et déjà, pourquoi ne pas avoir participé et comment ça nourrit votre travail? Ton travail, parce qu'on a commencé à se tutoyer tout à l'heure.
Ouais. Bah, moi, je ne me sens pas dessinateur de bande dessinée, de toute façon. Enfin, ce qui me concerne, c'est très très rare que je fasse de la bande dessinée, finalement. Je me sens plus illustrateur, affichiste, plutôt. Je fais plus ça, des petits trucs à côté, comme ça. Mais je ne me sens pas dessinateur de bande dessinée, quoi, et tout. C'est pour ça que j'ai dû faire une case de temps en temps, pas dans ce livre-là, mais dans le manga table, par exemple, ça me va bien, quoi. Mais à partir du début à la fin, de quelque chose et tout. Après, ben, Matt, tu sais bien, Matt, il vit bande dessinée, il pense bande dessinée, il s'exprime bande dessinée, quoi. Mais pour lui, c'est un moyen d'expression à part entière, quoi. Je sais pas comment le dire. Je connais pas beaucoup d'auteurs comme ça. C'est... Oui. Après, je sais pas. pas. Mais nous, on s'est rencontrés, là, je sais pas, c'était quoi, les fins des années 90, 16, 17, dans ces eaux-là, autour de ce projet de faire un fanzine. Et depuis, on ne s'est plus lâché. Et toute la bande à laquelle on est participé, bah, tu connais un peu les gens, Sarah Fistol, Jacques Velay, tout ça. Tout... Finalement, depuis qu'on a fait ce journal au départ, on est resté un espèce de groupe, quoi, assez... assez soudé quelque part, même si on peut passer un an sans se voir, on habite plus tous à proximité, tout ça, mais je sais pas, à chaque fois qu'on se voit, il se passe un truc, quoi, ça dessine, ça bouillonne, quoi, c'est drôle, quoi, c'est assez marrant, quoi.
Je te propose, Rico, puisqu'on n'aura pas eu la parole de Matt.
Ouais, bon,
on l'a senti quand même dans notre échange. Il est présent,
peut-être
il est omniprésent.
Peut-être qu'il n'est pas très en forme aujourd'hui.
Oui, c'est tout à fait envisageable.
C'est carrément envisageable.
Et on va écouter un morceau de Tom Waits qui sonne cette fois plutôt comme du Léon Redbone, mais c'est une petite de Tom Waits.
Fairy tales can come true, it can happen to you if you're young at heart. For it's hard, you will find to be narrow of mind and be young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams, and life gets more exciting with each passing day. Love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? And as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, think of all you'll derive out of being alive. You have a head start if you are among the very young at heart.
Du grand Tom Waits. Alors, Tu es lecteur de bande dessinée ?
Oui, grand lecteur. Je crois que j'ai commencé à lire la bande dessinée.
C'est bien. C'est important de le rappeler. On peut apprendre à lire avec la bande dessinée. Ouais. Et garder ce plaisir longtemps.
Ça inquiétait mes parents à l'époque.
Le discours sur la bande dessinée était très nauséeux.
Je l'ai bien subi, effectivement.
Pendant très longtemps. Mmh. Et donc, les parents n'étaient pas toujours rassurés. Alors, je voulais présenter également le dernier livre de Anne-Marie Pandolfo et de Thomas Reisberg, qui s'appelle Copenhague. Alors, on est à Copenhague. Cette histoire, c'est une fiction. Mais il y a, Thomas Reisberg connaît très bien le Danemark. Donc, on a une petite plongée dans les rues de Copenhague. Et un des arguments de l'histoire, c'est une jeune femme, Nana Miller, qui arrive, qui prend une semaine de vacances, qui laisse à sa fille un post-it sur le frigo. Débrouille-toi, je pars en vacances. Et elle l'appelle de Copenhague. Et il y a un quiproquo qui s'engage, qui va être une des pistes narratives de ce livre. L'idée, l'argument principal, c'est que il y a eu la mort d'une sirène dans le port de Copenhague et tout le Danemark est effondré, la vie s'arrête et ça ne fait pas les affaires de Nana Miller qui se retrouve coincée et qui va devoir dire à sa fille « je peux pas rentrer ». Et puis il y a une rencontre qui se fait avec un personnage, un Danois qui va l'aider dans cette nouvelle vie quotidienne. Et donc, on a un récit très enlevé, très dynamique, avec des emballements à plusieurs moments de l'histoire, notamment avec ces quiproquos entre la mère et la fille, mais entre la présence de cette sirène morte. Mais comment ça, une sirène morte ? Ben oui, il y a une sirène morte, c'est le postulat de départ. Et les emballements de ce récit, notamment cette première scène inaugurale où on est coincé au milieu d'une fanfare qui, chaque jour, se met dans la rue, et manifestement, c'est pagaille générale. Et il y a une dynamique dans le dessin, et ça, c'est la caractéristique du dessin de Thomas Reisberg, qui, avec le travail d'écriture scénaristique de son épouse, puisqu'Anne Marie Pandolfo c'est un couple dans la vie, et il y a une complicité qui rayonne tout au long de ces pages. C'est une des grandes difficultés dans la narration, d'une part de lui trouver un rythme, qu'il y ait aussi des moments de silence. Et c'est le cas puisque le dessinateur va avoir une écriture de la ville et il va en faire des moments de silence ou musicaux quand la fanfare est présente. Et on va vraiment se sentir dans les rues de Copenhague. Et il y a de très belles scènes où l'auteur va adopter un découpage avec deux images par page, et on va ainsi avoir un rythme du récit qui sera très, très vivant et qui attire le lecteur encore plus profondément dans l'histoire. Les dialogues sont très enlevés et il y a une mise en image avec notamment une attention au regard et notamment celui de Nana Miller et de sa fille. Et c'est une très belle histoire. Un autre parti pris essentiel, c'est la longueur, la durée. Et c'est essentiel de pouvoir développer ce genre de récit où on n'est pas ficelé par l'intrigue, où il ne faut pas qu'il y ait de parenthèses, de moments, où on est plus dans une digression, mais qui nourrit en fait complètement le récit, qui lui donne, qui donne au contexte, au lieu, une importance très grande. Et c'est la, la grande réussite de cette histoire, c'est aussi d'être avec des moments narratifs, des tableaux à l'image de, du cinéma ou du théâtre, où on va avoir une séquence et on prend le temps, les auteurs prennent le temps de la développer et de la, comme s'ils nous la racontaient dans l'oreille. C'est en plus un livre avec une mise en couleur très enlevée. Il y a notamment un chien rose qui s'appelle Nom d'un chien et il est parfait du début à la fin du livre. C'est une, vraiment une grande réussite. Il y a beaucoup de petites trouvailles graphiques qui semblent comme si elles étaient naturelles, mais ça c'est aussi la très grande force de la bande dessinée, c'est que ces codes, on peut se les approprier, les malaxer, les mettre vraiment à sa plume, à son écriture, et les auteurs qui s'engagent vraiment dans cette appropriation offrent souvent des œuvres de grande qualité. Un récit qui s'emballe, donc ce Copenhague de Marie Pandolfo et de Thomas Riseberg, c'est publié par les éditions d'Argo. Les 296 planches, alors ça fait à peu près plus de 300 pages avec les pages de titre et autres, sont au prix de 30 euros. Le livre a été imprimé en France. Alors, Rico, on n'a pas eu Matt Conture, c'est dommage, bien sûr. On aura l'occasion de refaire une émission avec lui. Qu'est-ce que ça ouvre comme horizon, ce voyage en Paris de Lee ? Ne serait-ce, alors on a évoqué les coéditions, mais ce travail de fond où on a une sorte d'émulsion, est-ce que ça va amener d'autres projets ? Ou pas, spécialement.
Je sais pas, on est assez plutôt dans le truc instantané, quoi. On projette rarement longtemps à l'avance. D'où peut-être tout ce temps qui se passe entre les différentes éditions, les différents livres qu'on sort, quoi. C'est qu'on se projette rarement. On n'a pas de business plan, quoi, je veux dire.
Nous voilà complètement rassurés.
Ouais, je sais pas, c'est moi, ouais, les rencontres, les situations plutôt qui provoquent ça, les amitiés, tout ce bazar, quoi. Mais
on peut parler de la prochaine expo. Donc, c'est à Ganges, du 14, jeudi 14. Il y aura donc un vernissage à 18h, jeudi 14 mars, jusqu'au 7 avril, qui est un dimanche. Donc là, il y aura Matt et toi, Rico, donc avec un ensemble d'œuvres. Il y aura des planches
de
ce Paris Idolique Comics Band.
On va quand même amener cette magnifique couverture, il faut l'avoir vraiment en vrai, quoi. La réduction sur le livre est assez marrante, finalement. Puis ça amène ce phénomène de Paris Dolly, finalement. Quoi, la super réduction, vous imaginez, passer d'un A5, c'est ça, c'est du A5,
c'est ça.
À du 2 mètres, hein, c'est quand même quelque chose. Mais ça vaut quand même aussi le coup de voir cette couverture qui a été improvisée, ben, un peu comme du dessin de nappe, sauf que c'est du papier à dessin, quoi. Il y avait cette feuille qui couvrait une page qui s'est fait remplir au fur et à mesure des visites à l'atelier, quoi. Chacun est venu y mettre sa petite touche, quoi.
Merci beaucoup, Rico, d'avoir tenu le choc et d'avoir pallié l'absence de Matt.
J'ai pas vraiment l'habitude, moi, de tout ça.
On va prendre de ses nouvelles. Mais en tout cas, je pense qu'on on y était. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai rappelé les références du livre. Donc, Paris Idolique Comics Band propose donc ces voyages, avec un S, bien sûr, en Paris Idolique. C'est une coédition avec une petite dizaine d'éditeurs, dont les principaux, l'Apocalypse, l'association, la cinquième couche et Super Loto.
Et puis
la table, bien sûr. Et donc le prix, 276 pages, c'est ça?
Et je rajouterai que pour la première fois, nous serons en librairie avec un vrai distributeur et que la sortie officielle du livre, c'est le mois de mai. Oui, le mois de mai, quoi.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ben, les coéditeurs ne peuvent pas le vendre sur leur site. Il faut venir nous voir, quoi, de la main à la main. Sinon, si vous voulez l'avoir avant la sortie officielle.
Donc on en reparlera, bien sûr, à l'occasion. Son prix, c'est 15 euros. Merci Fabien pour cette technique et très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.